RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour. Depuis le boom du web, des smartphones, de Facebook et autres réseaux sociaux, des particuliers du monde entier sont capables de se mettre en relation pour échanger ou commercer. C'est un immense champ des possibles qui permettent de consommer autrement, d'optimiser les objets que l'on possède ou encore d'enrayer le gaspillage. Un mouvement qui vise à privilégier l'usage, ce qui est un peu plus durable, et non la propriété des objets. On l'appelle l'économie du partage, l'économie du peer-to-peer ou encore l'économie collaborative, une opportunité ou une menace, un grand reportage de Patricia Lecomte.
Je donne assez souvent, régulièrement, on va dire, c'est des entreprises organisateurs de spectacles, une comédie musicale par exemple, ce qui me vient à l'esprit, et puis un festival de jazz aussi, un soutien, je trouve que c'est très chouette, c'est encourager.
Paul prête de l'argent pour soutenir des projets culturels. Il est un acteur du crowdfunding ou du financement participatif. Un phénomène qui a la cote, il agit là où la finance classique fait défaut. Le financement participatif a commencé avec des sphères créatives, plutôt culturelles ou artistiques, pour s'ouvrir un peu plus tard à des secteurs plus traditionnels. Vincent Ricordo est l'un des trois cofondateurs de KissKissBankBank Technology. Avec deux autres membres de sa famille, ils ont monté trois plateformes de financement participatif.
On a monté Hello Merci, qui est une plateforme de prêt solidaire, où on finance la crèche de votre voisine. Donc là, on parle de prêt solidaire, donc de prêt à taux zéro. Et puis, depuis l'ouverture du monopole bancaire, on peut proposer aux particuliers placer leur argent dans des PME françaises qui, du coup, elles vont les rémunérer de 5 à 12% d'intérêt par an. Donc on a trois plateformes pour trois univers différents. L'une pour les projets artistiques, deux pour les projets de micro-entreprise et la troisième pour les projets de PME qui sont en phase de développement et qui sont en train de vivre leur croissance grâce au financement de particuliers comme vous et moi.
Ça se passe en direct, en zappant les acteurs ou les intermédiaires historiques, comme les banques, censés remplir ce rôle, mais qui ne jouent pas toujours le jeu.
Vous déposez votre projet. Sur la base de ce que vous avez déposé, on va vous donner un feu vert ou un feu rouge. À partir du moment où vous êtes accepté sur la plateforme, vous allez avoir en moyenne 30 jours pour collecter l'objectif que vous vous êtes fixé. Et à la fin de ces 30 jours, soit vous avez atteint votre objectif ou dépassé, et auquel cas on vous envoie l'argent, moins la commission des plateformes, soit vous avez loupé votre objectif, et auquel cas on rembourse l'intégralité des internautes gratuitement, et évidemment dans ce cas-là, les plateformes ne prennent pas de commission.
KissKissBankBank Technology a financé 15 000 projets, le volume collecté s'élève à 40 millions d'euros, dont 20 millions en 2015. En septembre dernier, ils étaient 12 salariés, à la fin de l'année, ils seront 30. Leur travail, assurer le bon déroulement des opérations entre particuliers, et prélever un pourcentage de 4 à 6 % du montant de l'argent prêté aux créateurs de projets.
Pour être complètement clair sur KissKiss, pas de taux d'intérêt, on n'est pas dans une logique de rendement, on est dans une logique de troc. Sur Hello Merci, pas de rendement non plus, on est dans une logique de solidarité. Vous allez prêter 200 euros à votre voisine pour qu'elle monte une crèche, elle vous rendra ces 200 euros sur 12 mois par exemple, mais sans taux d'intérêt. Par contre, sur Endopolis, on est dans une logique plus capitalistique, où effectivement, là, vous allez investir de l'argent dans des PME qui sont matures, qui ont plus de 2 ans, qui sont donc en capacité de rembourser, et elles vont vous rembourser avec un taux d'intérêt qui va osciller entre 5 et 12% par an, brut, ce qui fait évidemment un placement relativement intéressant pour les particuliers, puisque, comme vous le savez, les placements pour les gens qui ont des salaires classiques, tout simplement, sont quasi nuls aujourd'hui sur les marchés traditionnels.
Le financement participatif devient un partenaire à part entière, tout en préservant sa forme militante.
L'économie fonctionne mal, les inégalités sont grandissantes, il n'y a jamais eu autant d'argent. Le problème, c'est que l'argent, il reste campé au même endroit. Et qu'aujourd'hui, si on veut que les choses aillent mieux, il faut que l'argent soit mieux distribué. Et en l'occurrence, les plateformes de financement participatif, c'est fait pour ça. Ce qu'on propose aux individus, c'est de reprendre le pouvoir sur son argent, de décider ce qu'on en fait véritablement, et surtout de pouvoir tracer l'utilité et l'impact de notre argent, puisqu'on va l'investir, ou le prêter, ou le donner, dans des projets qu'on va suivre derrière.
Les projets qui sont passés par le crowdfunding trouvent ensuite plus facilement des financements auprès des banques, et à l'inverse, d'autres, qui ont déjà une partie de leur financement, viennent le compléter chez KissKissBankBank. Vincent Ricordo y voit un remède à l'atonie de notre économie.
Ce qu'on prône avec l'économie du peer-to-peer ou avec le crowdfunding, c'est cet argent circule plus vite, circule mieux à tous les étages de la société. Si chaque Français qui a la capacité aujourd'hui d'utiliser 1000 euros pour l'investir dans l'économie réelle, si vous avez 1 million de Français qui suit ce mécanisme, vous avez quasiment résolu le problème de financement des PME en France, si vous voulez. Donc on est en face d'un système qui est potentiellement très révolutionnaire pour l'économie.
Je travaille pour une boîte de grande consommation et en fait j'ai fait le choix de télétravailler dans un espace de coworking. Chez moi c'est pas l'idéal parce que j'ai un enfant, donc du coup ici ça me permet de travailler tranquillement. C'est vraiment très convivial, c'est simple, c'est tout ce qu'il faut.
Aurélie est coworkeuse. Le coworker est un lieu destiné à tous ceux qui ne sont pas salariés en entreprise et qui ne disposent pas de bureau. On peut venir une heure, une journée, une semaine pour y travailler. Ici, on ne parle pas de clients, mais de coworkers qui retrouvent une communauté. Thomas Lemarchand, jeune trentenaire, vient d'ouvrir l'espace Puzzle Coworking à Suresnes.
On est dans un espace de travail partagé. On a 100 mètres carrés d'open space. Deux salles de réunion de 15 mètres carrés chacune, des box téléphone pour que les gens puissent téléphoner en toute tranquillité et aussi une cuisine pour que les gens puissent se faire à manger. Ça sert à sortir un petit peu de chez soi. Par exemple, les travailleurs indépendants ont tendance à être isolés chez eux. Le but du coworking, c'est de sortir ces personnes de l'isolement pour trouver une communauté et se créer un réseau.
Selon Thomas Lemarchand, l'esprit collaboratif du lieu est conjoncturel. Il répond à un besoin technique, social, une parfaite illustration de l'entraide.
On parle vraiment d'échanges collaboratifs, participatifs. Il y a une multitude de mots. Il n'y a pas forcément d'échange d'argent entre les personnes, mais c'est plutôt, je vais te faire de la direction artistique en faisant un graphique, un logo. Derrière, moi, je t'aiderai pour rédiger tel contenu de ton site. Et c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'échanges. On a des personnes qui seront capables de répondre soit par expérience, soit du fait de leur métier.
Bla, c'est quand on n'est pas bavard. Et donc, on annonce la couleur. On fait passer le message à nos covoitureurs qu'on ne sera pas forcément l'animateur du trajet. Et puis, au contraire, si on est blablabla, c'est qu'on peut tenir un Toulouse-Paris sans problème à faire la conversation.
Laure Wagner est la responsable de la communication de Blablacar, un site de covoiturage bien connu qui aujourd'hui compte 20 millions d'adhérents, comme Anouk, qui en est une fervente utilisatrice.
Je suis à Reims et je cherche à rentrer à Paris. Je sélectionne mes villes. Ensuite, je vais sur le calendrier. Voilà, donc je veux rentrer le 18 décembre. Alors, ça me donne 27 résultats. Donc, ils sont classés par heure de départ et par prix. Les moins chers sont à 9 euros, les plus chers à 13.
On voit la photo du conducteur, il y a des commentaires. Est-ce que ça, vous y êtes sensible ?
Oui, oui, mais le premier critère, ça va être l'horaire de départ. Le deuxième critère, ça va être le lieu de dépose. Donc, si la personne a un profil assez fiable et qui juste me dépose, par exemple, Porte d'Italie, voilà, c'est pas trop loin de chez moi. Voilà, lui, par exemple, il arrive à Antony, donc c'est vrai que ça m'arrange pas. Donc, je le prendrai pas, même s'il a des meilleurs commentaires. Là, je vais prendre Simon, qui a 19 ans et qui est ambassadeur, donc ça veut dire qu'il fait des trajets assez régulièrement. Il est à 9 euros et il arrive à Paris, Porte d'Orléans. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est le type de voiture.
Et là, c'est quoi comme voiture ?
Un cruiser. Bon, ça a l'air gros sur la photo, donc ça a l'air d'être OK.
Blablacar, c'est une belle aventure 100% française. Son fondateur est un jeune Vendéen, Frédéric Mazella. Alors qu'il était étudiant en 2003, il cherchait un moyen de rentrer chez lui pour les fêtes de Noël. C'est ainsi qu'est né son premier site, covoiturage.fr. Le concept était alors novateur et le pari risqué. Mettre en relation des particuliers qui ne se connaissent pas, cela paraissait fou. Laurence Wagner.
On a réfléchi à tous les freins à la pratique du covoiturage et on s'est appliqué à trouver des fonctionnalités, les évaluations après trajet, le pictogramme blablabla, ça fait rire, mais c'est aussi pour qu'on soit sur la même longueur d'onde de l'expérience sociale qu'on attend, le paiement en ligne, ça a fiabilisé la transaction en fait, et puis la modération. Donc on a une équipe relations membres d'à peu près 80 personnes en interne qui font la relation membre. Parce que l'aspect modération est très important pour proposer une plateforme de qualité, s'assurer que tout le monde est bien là pour faire du covoiturage et non pas d'en faire un business, c'est interdit, et puis le faire dans l'art du covoiturage. Quoi.
Les dirigeants de Blablacar veillent à ce que le covoiturage reste dans une logique de partage des frais. Les automobilistes ne peuvent proposer que 2 trajets par jour et les prix sont encadrés.
Les conducteurs ne sont pas libres complètement dans leur prix. Quand ils publient leur trajet, par exemple Paris-Rennes, on sait combien coûte le carburant et on connaît aussi le prix des péages. Donc on fait divisé par 3, parce que du coup, c'est un espoir. S'il remplit, s'il a 3 passagers, eh bien, tant mieux, il rentrera complètement dans ses frais. Puis s'il en a qu'un ou 2, bah, tant pis. De toute manière, il devait faire le trajet. Donc, c'est que du bonus pour lui, finalement. Donc, on propose ce prix conseillé par Blablacar et le conducteur a la possibilité de l'augmenter seulement de 50%. S'il garde le prix conseillé, son annonce apparaîtra en vert. S'il augmente un petit peu, ça apparaîtra en orange. Et s'il augmente de 50%, son annonce sera rouge.
Ainsi, les propriétaires de véhicules optimisent leur trajet. Quant aux passagers, ils voyagent à moindre coût dans de bonnes conditions. De plus, le covoiturage est aussi une réponse écologique.
Je rappelle que la voiture personnelle est utilisée seulement 5% de son temps. 95% du temps, elle est garée. Et en plus, quand elle roule, sur les 5% du temps, il n'y a que 1,2 personnes par véhicule. Donc c'est vraiment un objet qui est sous-utilisé, qui coûte cher pourtant, et qui pollue en plus. Donc il y a vraiment une optimisation possible, et on fait partie des acteurs qui peuvent générer cette transition vers ce nouveau paradigme.
L'économie collaborative a un impact violent sur l'économie traditionnelle au point de déstabiliser certains secteurs. On l'a vu avec Uber Pop qui a soulevé la colère des chauffeurs de taxi, même inquiétude du côté des hôteliers qui sont confrontés au site américain Airbnb où des propriétaires louent une chambre ou un appartement. Si dans un premier temps les particuliers sont gagnants, dans un second temps ils risquent d'en faire les frais. Benoît Thiolin est président du Conseil national du numérique.
Lorsque vous faites ça, vous n'êtes pas dans une entreprise, vous n'êtes pas salarié chez Uber, vous n'êtes pas salarié lorsque vous louez votre chambre chez Airbnb. On parle de quand même de plusieurs centaines de milliers de personnes, ça ne va que croître. Quelle sera la protection sociale? Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer des générations de précaires, des générations de gens qui à 60 ans vont se dire « mais attention, moi j'ai pas très bien cotisé ou j'ai cotisé dans des caisses qui me rapportent pas, je suis pas très bien protégé en termes de santé, etc. etc. » Comment est-ce qu'on reconstruit une protection sociale dans des parcours qui sont éclatés? C'est une vraie question qui est pas facile à régler.
L'économie collaborative bouscule les fondements de notre société. Pour l'économiste Nicolas Bouzou, il va probablement falloir refonder notre modèle de solidarité nationale.
Quelqu'un qui loue son logement sur Airbnb, par exemple, ne paye pas de cotisation sociale. Et donc, si on considère que c'est une activité, il faut trouver le moyen de les faire contribuer à la sécurité sociale. Alors, ce ne sera pas des cotisations sur les salaires, parce qu'on voit bien ce que l'on est en train de toucher du doigt, c'est la baisse de la part de marché du salariat dans les relations sociales et la montée d'activités indépendantes. Et donc, il va falloir créer un cadre social pour les activités indépendantes et faire en sorte qu'il y ait des cotisations. Moi, je crois que ça peut prendre la forme de ce que l'on appelait il y a quelques années une TVA sociale, par exemple, c'est-à-dire faire financer la sécurité sociale, non plus simplement par des cotisations qui sont assises sur des salaires, mais par des impôts. Devant nous, on a un véritable chantier de refondation de nos états-providence.
Il faudra également une nouvelle régulation pour protéger ces travailleurs indépendants. Ce bouleversement ouvre des pistes, comme celle de l'instauration d'un salaire universel.
Le fait de donner à tous les Français une allocation tous les ans pour les protéger contre des aléas de la vie. Parce que faut pas se tromper, on peut pas plaquer le droit du travail sur celui des indépendants, ce sont des choses complètement différentes. Et donc tout ceci nous oblige à faire un véritable effort d'imagination. Mais c'est pas de la réforme, c'est beaucoup plus que ça, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc il faut pas dire, les gens qui sont sortis du salariat pour aller dans le travail indépendant, on va les refaire passer du travail indépendant au salariat. Ça, c'est pas possible. Il faut réguler le travail indépendant, c'est tout à fait autre chose.
Économie collaborative ou économie du partage, une terminologie que réfute l'économiste Nicolas Bouzou, pour qui les gagnants sont les plateformes. Ces nouveaux intermédiaires prélèvent un pourcentage sur des milliers de transactions.
C'est vraiment du marketing du bisounours. Ce qu'on appelle l'économie du partage ou l'économie collaborative, c'est pas la fin du capitalisme, c'est le stade ultime du capitalisme. C'est-à-dire le moment où des biens de consommation que vous aviez achetés pour votre convenance personnelle, votre voiture, votre maison, vous allez en faire un actif marchand. C'est-à-dire que vous allez le valoriser. D'accord? Ensuite, je suis pas pessimiste quant au fait qu'un certain nombre de relations sociales vont rester non marchandes, parce que dans ce système, rien ne vous empêche de prêter votre vélo à un voisin. Mais vous avez aussi aujourd'hui la possibilité de vendre ces services. Donc on n'est pas du tout dans de nouveaux rapports de production au sens où ce serait la fin du capitalisme et la naissance d'autre chose. Non, c'est un nouvel âge du capitalisme et on peut l'appeler l'âge ultime du capitalisme.
A contrario, Arthur De Grave, rédacteur en chef du magazine Wisher & Co, auteur du livre « Société collaborative, la fin des hiérarchies », est persuadé que nous sommes à l'aube d'un nouveau modèle économique où le savoir sera accessible gratuitement. Selon lui, la crise de 2008 restera un marqueur dans l'histoire de l'économie collaborative.
L'effet crise a eu un impact, évidemment. Après, de quelle crise parle-t-on? Enfin, je pense que la crise dont on parle, c'est la crise d'une certaine idéologie. Ce qui s'est effondré en 2008, c'est la croyance que l'avidité est une bonne chose, que la compétition tous azimuts est la règle de toute vie humaine. C'est ça aussi qui s'est effondré en 2008. C'est encore récent, mais on est encore en train de vivre les répercussions de cette crise culturelle. Et je pense qu'il y a effectivement une dimension générationnelle dans le fait de considérer qu'on va pas retomber dans les années fric et les années 80. Je pense qu'il y a effectivement des aspirations à autre chose. En tout cas, ce qui est devenu manifeste en 2008, c'est que ce mode de vie-là basé sur la consommation tous azimuts n'est plus désirable. Il est difficile de trouver cette vie-là désirable aujourd'hui.
On écoute sans doute moins nos parents où on se dit, bon bah vous, vous avez eu de la chance. Nous, voilà, en gros, ce que vous nous avez laissé. On n'a plus les mêmes rêves que vous. Vous aviez un rêve de posséder avant. Nous, on a un rêve d'être heureux dans la vie. Et c'est quelque chose qui a changé, quoi.
L'économie collaborative est-elle une opportunité ou une menace? Un grand reportage de Patricia Lecomte à la réalisation Swell Kedir.
Bonjour Patricia Lecomte.
Bonjour Charlotte.
Les plateformes de partage, on le vend en poupe grâce à Internet. Sans cette révolution numérique, rien n'aurait été possible.
Oui, vous avez raison de le souligner Charlotte. Actuellement, 5 milliards de personnes possèdent un téléphone portable et il y a plus d'appareils connectés à Internet que d'habitants sur Terre. Cela vous donne la mesure du potentiel qu'offre le numérique. Facebook abrite 2 milliards d'utilisateurs et le chiffre devrait doubler d'ici 3 ans. On échange 350 millions de tweets par jour. Le partage est bel et bien le résultat d'Internet. Sur la toile, de nouveaux sites participatifs fleurissent chaque jour, touchant à chaque fois de nouveaux secteurs. Le mouvement est parti des États-Unis, plus précisément de Californie, avec le sharing qui signifie privilégier l'accès à la possession. En clair, pourquoi acheter un objet quand je peux y accéder par la location ou l'échange? Le principe étant qu'ensemble, on est toujours plus fort, avec en toile de fond la crise. La crise qui a amputé le pouvoir d'achat des citoyens, les poussant à consommer autrement, avec une préoccupation nouvelle, celle de l'épuisement des ressources de la planète. L'économie du partage se veut vertueuse, tout en prétendant répondre aux difficultés du moment.
Et vous avez parlé des États-Unis. Est-ce que les Français adhèrent à l'économie collaborative?
Les Français sont rentrés massivement dans l'économie collaborative, mais en tant que consommateur et pas véritablement en tant que producteur, hormis Blablacar. Les grandes entreprises sont étrangères, plutôt américaines, éventuellement asiatiques, et possèdent des antennes en France très importantes, comme Airbnb. Alors ce que l'on observe nous renvoie au fond aux problématiques macroéconomiques de la France. La France est un pays qui va vite, contrairement à ce que l'on dit, qui est capable de se réformer, de bouger. On le voit bien, les Français, toutes générations confondues, adoptent très vite ces nouvelles technologies. Mais les contraintes réglementaires, fiscales et administratives que l'on connaît bien chez nous sont un frein au développement et la majorité des entreprises de ce secteur sont pour beaucoup immatriculées à l'étranger.
Et ça contraste avec le vivier important de start-up dans l'Hexagone.
La France est un pays innovant mais sans croissance. Il y a donc un problème. Ces entreprises ne grandissent pas et ne parviennent pas à avoir sur l'économie l'effet d'entraînement qu'elles devraient avoir. Donc on a bien un problème d'ordre réglementaire fiscal. L'exception qui confirme la règle, c'est ce que je vous disais, c'est Blablacar, la start-up française qui se développe à l'étranger, soutenue par les investisseurs. Sa dernière levée de fonds en septembre lui a permis de récolter 200 millions de dollars. Ce mois-là, Blablacar était évalué à plus d'un milliard d'euros. Une levée de fonds qui lui permet d'embaucher des équipes et de faire des dépenses de marketing au Mexique, en Inde, en Turquie et en Russie. C'est de l'investissement pour la croissance car l'entreprise entend bien conquérir de nouveaux marchés.
Et dans votre reportage, vous évoquez les conséquences de l'économie collaborative qui met à mal les protections sociales. Qu'en est-il de la réglementation fiscale?
Eh bien, si on regarde l'exemple du covoiturage, la répartition des frais n'est pas considérée comme revenu supplémentaire. En revanche, un particulier qui loue régulièrement une chambre à des touristes va devoir dorénavant payer des impôts. Vendredi 11 décembre, les députés ont voté un amendement au budget 2016 qui oblige les sites internet d'informer leurs membres des sommes qu'ils doivent déclarer aux impôts. Et ce n'est que le début d'un processus, car le législateur entend mettre en œuvre un régime fiscal et social dédié à l'économie collaborative.
L'économie collaborative, une opportunité ou une menace? Votre grand reportage, Patricia Lecomte, est à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.